Salut à tous et bienvenue dans ce format un peu différent de d'habitude. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question que beaucoup d'entre nous se posent. Où est-ce qu'on en est dans ce cycle du Bitcoin? Et est-ce qu'on se rapproche éventuellement d'un bottom sur ce cycle? Et c'est vrai qu'avec les récents événements, notamment la hausse du Bitcoin qui a été assez soudaine et spectaculaire jusqu'à 80 000 $, on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde qui l'attendait. En général, on a plutôt des mois d'août assez calmes. Et donc, pour essayer de pas rester dans le flou comme ça, on va faire une analyse méthodique et regarder où en est le Bitcoin sous plusieurs angles. Donc, on va commencer par le prix. Ensuite, on regardera un petit peu au niveau de la temporalité, notamment par rapport au halving, au dernier top et au dernier bottom. Puis, on s'attardera un petit peu sur les indicateurs de cycle plus globaux et on terminera par une analyse on-chain. Et au passage, ça nous permettra aussi de nous poser la question de si les indicateurs on-chain sont toujours aussi fiables. Beaucoup d'indicateurs on-chain n'avaient pas vraiment émis de signal d'alerte ou de surchauffe ou d'euphorie, comme ça a pu être le cas sur les cycles précédents. Donc, on est en droit de se poser la question de leur pertinence. Et pour ça, on va regarder un petit peu plus en détail pourquoi, quelles peuvent être les raisons. Alors évidemment, le but, c'est pas de dire le bottom sera à tel prix, à telle date, c'est impossible, personne ne peut le dire. Par contre, on peut émettre des hypothèses et avoir une idée un petit peu plus globale de où on se trouve dans le cycle. Donc pour commencer notre analyse, on va partir sur de l'analyse technique et pour ça, je vous laisse avec CM.
Et il est vrai que quand on observe le passé, on pourrait être tenté de penser que le bottom est déjà fait, ce qui en ferait en l'état des bear markets les moins complexes et les moins difficiles finalement qu'est connu le marché des crypto-actifs, puisque remontant un tout petit peu en arrière, en 2018, lorsqu'il y avait eu le grand décrochage de cette période de consolidation sous la moyenne mobile 50, exactement comme ce que ça a fait sur ce cycle et sur le cycle précédent, avec un décrochage qui avait conduit à la moyenne mobile 200 semaines, juste autour des 3 000 $ pour ceux qui étaient déjà là en 2018. À cette époque, le Bitcoin avait reculé de 84%. Sur le cycle d'après, nous avons reculé que de moins 77%, donc petit à petit, on sent que la volatilité, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, tend à s'amenuiser finalement. Et sur ce cycle en particulier, eh bien, nous avons un recul qui nous a amené au niveau du cours du Bitcoin de 125, quasi 126 000 dollars, sous les 58 000, ce qui nous faisait un recul de moins 54%, ce qui pour les plus anciens d'entre nous, d'entre vous, met le doute en effet par rapport à cette cyclicité de 4 ans qui est amenée systématiquement par le halving, de si le point bas a d'ores et déjà été fait. Pour le court et moyen terme, qu'est-ce que nous pouvons observer concrètement au-delà des pourcentages de baisse? Eh bien, nous sommes exactement dans la même configuration que celle que nous avions eue autour de 2022 jusqu'à l'automne 2022. Premièrement, au niveau du RSI, nous avions une divergence avec le RSI qui était venu chercher autour de 25 points en hebdomadaire, tandis que sur ce cycle, le point bas s'est établi autour de 27, donc on est totalement dans les clous. Et ensuite, on a cette configuration où systématiquement, on vient chercher cette fameuse moyenne mobile à 50 semaines en orange ici sur votre écran et pile poil sur laquelle nous nous trouvons actuellement au niveau du cours du Bitcoin, puisque à ce jour, elle se trouve au moment où nous enregistrons cette émission autour de 81 000 $. Et donc aujourd'hui, tout ce qui se trouve aux abords de 80 000 et a fortiori avec une double validation au-dessus de 83 000 permettrait de renverser cette polarité de bear market. Il est à noter également en marge de l'analyse technique que la saisonnalité est défavorable au niveau du mois de septembre, historique à l'appui, au niveau du marché américain pour le S&P 500. Donc peu importe comment l'on regarde les choses d'un point de vue de l'analyse technique, oui, nous sommes probablement dans ce qui s'apparentait à ce fameux été-automne 2022. Est-ce que nous allons réussir à passer durablement au-dessus de cette fameuse zone des 80-83 000, ce qui permettrait d'ici la fin d'année 2026, voire premier semestre 2027, d'espérer rallier le compte rond psychologique des 100 000 $ et par la suite de revenir chercher cet ATH pour Bitcoin aujourd'hui qui se trouve autour de 126 000 $. Comme vous l'aurez compris également, en cas de consolidation, nous pourrions viser deux choses et deux éléments distincts. Un élément qui serait plutôt neutre favorable, c'est-à-dire une configuration en épaule tête épaule ici inversée au niveau du cours et de revenir travailler quelque part entre 65 et 70 000 $ du côté de Bitcoin pour nous faire le marchepied cet automne, ça serait c'est juste parfait en termes de configuration technique. L'autre configuration, la troisième, la dernière, qui serait un peu moins plaisante, ou peut-être pas pour ceux qui n'ont pas encore fait toutes leurs emplettes, ce serait en effet de buter sur cette zone des 80 000, que ça ne passe pas et qu'on ait un automne de par justement des mouvements annexes au marché crypto et pourquoi pas du côté du marché traditionnel, qui nous permettrait eh bien, de revisiter les points bas autour de 60 000 dollars, voire à fortiori, si vraiment ça se gâtait, pourquoi pas enfin d'avoir cette zone établie autour des 50 000 dollars, zone sur laquelle nous conduit quasi systématiquement, comme vous allez le voir dans un instant avec Sacha, à la fois l'analyse temporelle et à la fois l'analyse on-chain.
Donc comme prévu, on passe à l'analyse temporelle. On va essayer de voir ce que fait le Bitcoin par rapport au cycle précédent pour déterminer si en termes de temporalité, on est bien dans les temps. Donc on commence avec la performance de prix depuis le halving. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a les trois cycles précédents en jaune, en vert et en bleu. Le cycle actuel étant en blanc. Et donc là, la première chose qui nous saute aux yeux, même si on prend le bottom de 2013, on semble être à peu près en termes de temporalité dans la même zone à un mois près, deux semaines près. Bon, pas grand chose. Par contre, si on prend le bottom de 2018 en vert et le bottom de 2022 en bleu, on voit qu'on est plutôt en avance. On a fait notre bottom bien 3-4 mois avant, ce qui semble quand même ne pas vraiment coller, puisque si on regarde là de cycle en cycle, le bottom semble au contraire se décaler dans le temps. Donc en effet, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un petit peu tôt, sachant que si on regarde uniquement les bottoms de 2018 et de 2022, on remarque que dans la temporalité dans laquelle on est actuellement, on devrait plutôt avoir un dernier dump, une dernière capitulation. Là, on le voit bien pour le bottom de 2018 que ça commence ici. Pour le bottom de 2022, on a la même chose. Là où nous, actuellement, et ces derniers jours, on a plutôt eu une hausse qui était assez inattendue finalement, ce qui semble quand même ne pas vraiment coller au cycle précédent. Si on prend la performance depuis le dernier ATH, c'est encore plus frappant puisqu'ici, on voit encore mieux le dernier bottom, la dernière capitulation qu'on a eu sur les cycles précédents, alors qu'ici, en blanc, on voit bien que nous, on a plutôt eu une hausse. Alors certes, on n'a pas déplacer le point au précédent et on est plutôt sur une zone qui devrait faire office de résistance, mais on voit bien que même avec cette métrique, on est quand même un petit peu en avance, surtout par rapport au bottom de 2022. En prenant le prix depuis le dernier point bas, donc de bottom à bottom, on constate encore une fois la même chose. Donc là, j'enlève le cycle de 2011 à 2015 parce qu'il est peu pertinent dans notre cas, mais on voit que comparé aux deux derniers cycles, on est encore une fois en avance et que si l'histoire se répétait, on devrait avoir prochainement une dernière capitulation. Ce qui, au vu du mouvement récent, semble toujours assez improbable. Et l'un des meilleurs indicateurs pour avoir une vision vraiment globale de tout ça, c'est le Bitcoin Spiral de The Rational Roots. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Donc là, pour expliquer le fonctionnement de manière simple, en vert, vous avez les différents halvings, et la spirale permet d'identifier les tops et les bottoms timés par rapport au halving. Donc en termes d'ATH, ici, on le voit très bien, les trois derniers ATH sont quasi parfaitement alignés. C'est pas le cas pour le précédent, mais on peut se dire que le Bitcoin était encore un actif très jeune et que les cycles n'étaient pas encore vraiment calés. Mais surtout, ce qui saute aux yeux, c'est au niveau des bottoms. On voit très bien que les trois derniers bottoms sont bien alignés, mais pour autant, notre dernier point bas, le bottom de ce cycle, il paraît quand même très en avance par rapport aux autres. Donc ici, la temporalité n'est pas donnée en termes de date, mais en nombre de blocs de Bitcoin, ce qui nous donne quand même à peu près une idée globale. Et on peut se dire encore une fois que si on voulait faire un bottom proche des mêmes timings que les cycles précédents, ça devrait se passer d'ici deux mois toujours. Donc ça corrobore un petit peu ce qu'on a vu avant. Et un autre moyen de regarder cette temporalité un peu plus en détail, c'est de regarder le temps qui se passe entre chaque bottom et chaque top. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, on avait fait un short sur le sujet il y a un peu plus d'un an, mais voilà, si on regarde là par exemple entre le bottom de 2015 et le top de 2017, il s'est passé 1064 jours, et si on prend le temps depuis le top de 2017 au bottom de 2018, il s'est passé 364 jours. Et ensuite ça continue, 1064 jours, 364 jours, 1064 jours, et donc pour ce cycle, 364 jours, ça nous mènerait à peu près au 6 octobre. En zoomant un petit peu plus, on se rend quand même compte que ça paraît assez improbable puisque ça nous ferait une baisse très soudaine et très forte en peu de temps finalement. Donc voilà, les cycles passés voudraient que, mais dans la réalité, c'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, bon là, on est plus dans le même que dans l'analyse puisque cette théorie a quand même beaucoup de chances d'être invalidée sur ce cycle. Mais en tout cas, si on continuait comme ça, ça nous amènerait à un top prochain le 3 septembre 2029. Bon, encore une fois, c'est pas à prendre au pied pied de la lettre ni trop au sérieux. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça sur les cycles précédents que ça va se passer exactement comme ça sur ce cycle. On va maintenant passer aux indicateurs de cycle. On va découper cette partie en deux sous-parties et on va d'abord commencer par les indicateurs composites. Alors les indicateurs composites, c'est assez simple, c'est des indicateurs qui agrègent plusieurs autres indicateurs. Donc le but, c'est de synthétiser plusieurs informations, tout simplement. Et on commence avec l'indicateur BTB de l'utilisateur d'Approf sur TradingView. Donc BTB, ça veut dire Bitcoin Top and Bottom Indicator. Donc je pense que la volonté de l'utilisateur est assez claire. Et on peut voir que son indicateur, en effet, a bien noté le top de 2017, le bottom de 2018-2019, les deux tops de 2021 et le bottom de 2022. Par contre, si on va un petit peu plus loin, on remarque que sur le dernier cycle, donc en 2025, il n'y a eu absolument aucune mention d'un éventuel top. Donc quelqu'un qui attendait cet indicateur pour vendre, il aurait en fait jamais vendu. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas pertinent, puisqu'on peut remarquer ici qu'au niveau du bottom, il nous a mis un petit point qui indiquerait un potentiel point bas, en tout cas une zone d'achat long terme intéressante. Si on zoome encore un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais on voit un petit trait bleu qui indiquerait une éventuelle zone d'achat long terme intéressante sur toute la partie, on va dire de 70 000 à 60 000. Un autre indicateur, c'est le CBBI. Celui-là, je pense qu'il y en a plus d'entre vous qui le connaissent. Donc le CBBI, il va principalement agréger des données on-chain pour donner un score. Donc là, ici, on voit qu'on est actuellement à 41. Donc plus on est proche de 100, plus on est proche d'un top, plus on est proche de 0, plus on est proche d'un bottom. On le voit très bien sur les cycles précédents. Donc là, c'est allé très haut. Alors évidemment, sur le cycle de 2025, même chose, c'est pas allé aussi haut que d'habitude. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'en termes de bottom, on n'a pas du tout les mêmes signaux que sur les cycles précédents. Sur les cycles précédents, on est descendu à des valeurs de sous les 5, on va dire, sous les 10 en tout cas. Là, on est allé au minimum aux alentours de 25. Et si on entre même un petit peu plus dans le détail, donc là, si on prend la zone à peu près dans laquelle on est actuellement, aux alentours des 30, si on regarde sur les deux cycles précédents, ça correspond à la zone juste avant le dernier gros dump, chose qu'on n'a pas du tout eu ici sur ce cycle actuellement. Un autre indicateur, c'est le bubble risk. Donc je vais pas expliquer son fonctionnement en détail, mais en gros ça prend plusieurs mesures de valorisation pour faire une estimation. Contrairement aux autres indicateurs, ce que celui-ci montre très bien, c'est que la volatilité semble s'écraser au fil du temps, en tout cas pour les tops. On a aussi une zone de support très marquée au niveau des bottoms et on remarque, comme pour les autres indicateurs, que on n'a pas vraiment touché la borne basse, même si on s'en est pas mal rapproché. Même chose pour le Sharpe ratio. Donc le Sharpe ratio, ça mesure le rendement obtenu par Bitcoin par rapport à la volatilité. En fait, l'objectif, il est simple, c'est de déterminer un niveau de risque. Donc ici aussi, si on trace une droite grossière, on voit très bien que ça semble un petit peu s'écraser avec le temps. Par contre, au niveau des bottoms, on est encore une fois pas allé tout à fait à la même zone que sur les cycles précédents. Bon, on n'en est pas loin pour le coup. On va maintenant passer aux indicateurs uniquement on-chain qui nous permettent d'avoir une lecture un peu plus globale. Et c'est vrai que c'est un peu l'avantage d'avoir quelque chose de décentralisé comme ça, c'est que toute son histoire économique est visible sur la blockchain. Ou du moins, presque, on reviendra dessus. Donc le premier indicateur on-chain est c'est un de ceux que j'ai trouvé le plus pertinent de ceux que j'ai vu dernièrement, c'est qu'on remarque que c'est vraiment au niveau de prix de entre 60 et 65 000 qu'il y a eu le plus d'échanges de Bitcoin par rapport à tous les autres prix. Là, vous voyez très bien que le graphique part de 0 et monte jusqu'à plus de 120 000. Donc ça prend vraiment l'historique entier du Bitcoin. Donc on peut facilement imaginer que s'il y a autant de Bitcoin qui ont changé de main dans ces zones de prix, ça peut aussi servir de zone support assez forte. Un autre indicateur on-chain, c'est le short-term holder cost basis. Pour faire simple, ça calcule à peu près le prix de revient moyen des investisseurs récemment entrés sur le marché. Et ce qu'on remarque par rapport au cycle précédent, en tout cas si on compare, c'est que à partir du moment où on dépasse franchement ce seuil, on revient pas faire de points plus bas, même si ça nous empêche pas d'aller tester ensuite des niveaux pour les confirmer. Mais voilà, sur le bottom de 2022 en tout cas, une fois qu'on l'a dépassé, on n'est pas revenu dessous. Et ici, on remarque que avec la dernière hausse très marquée qu'on a eue, on est bien passé au-dessus. Donc voilà, à voir si ça se confirme, si ça se confirme pas. On passe au MVRV des holders long terme. Donc cet indicateur, il revient assez souvent et le MVRV, pour résumer, va comparer la valeur actuelle des bitcoins détendus à long terme à leur coût d'acquisition moyen on-chain. Encore une fois, sur cet indicateur, on voit très bien que les retours baissent avec le temps. Par contre, la zone de bottom reste à peu près la même et en effet, on voit qu'on n'est pas allé la chercher comme sur les cycles précédents. Et ça nous permet d'introduire la prochaine partie. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces modèles sont encore pertinents? Est-ce qu'on peut encore leur faire confiance? Et si je dis ça, il y a une raison très particulière, c'est qu'avec le temps, temps, il y a quand même beaucoup de modèles qui ont été complètement invalidés, alors même qu'ils étaient très suivis. Un des exemples très parlants, c'est le stock to flow. Il y a quelques années, tout le monde parlait du stock to flow. Beaucoup de gens le suivaient comme un indicateur très important et qui permettrait éventuellement de prévoir un petit peu le futur. On voit qu'il n'est plus du tout d'actualité, puisqu'en fait, si on voulait vraiment respecter le stock to flow, il faudrait qu'on soit aux alentours de 250 000. On en est très loin actuellement. Un autre indicateur qu'on a beaucoup vu pendant des années et des années, c'est un petit peu ces genres de graphiques avec des arcs-en-ciel comme ça, qui indiqueraient des niveaux d'euphorie, des zones d'achat intéressantes, etc. Alors déjà, sur le bottom de 2022, il y a plusieurs modèles qui ont dû ajouter une nouvelle couleur. D'ailleurs, je pense que c'est le cas pour celui-là. Juste pour dire, non, en fait, c'est pas le modèle qui marche pas, c'est juste qu'il faut le réadapter un petit peu. Mais bon, là, on voit très bien que sur le dernier top, on est soi-disant sur des zones qui disent d'accumuler. Et là, sur le bottom, on est carrément en dessous de l'arc-en-ciel. Bon, bref, je pense que ce modèle, il est complètement invalidé, surtout que de plateforme en plateforme, les zones de prix sont pas du tout les mêmes. Et puis, ça donne des targets complètement délirantes. Là, si on est sur la borne haute, on est à plus de 1,4 million. Donc bon, je pense qu'on peut complètement oublier ce genre de graphique. Un autre indicateur qui était très suivi aussi sur les cycles précédents et qui, encore une fois, n'a pas fonctionné sur le cycle de 2025, c'est le P-Cycle Top Indicator. Il y en a beaucoup qui le suivaient aussi sur les derniers cycles, alors même qu'il n'a pas fonctionné sur le deuxième top de 2021, même si on sait très bien qu'il y a eu un petit peu de manipulation sur le deuxième top de 2021. On aurait pu se dire, éventuellement, ça aurait pu fonctionner sur le cycle de 2025. Là, c'est pas le cas. Cet indicateur, encore une fois, il est complètement invalidé. Et des exemples d'indicateurs comme ça qui ont fonctionné sur les cycles précédents, il y en a plein. Donc là, on revoit le MVRV Z-Score. On voit très bien que sur le top de 2024-2025, on n'est pas allé aussi haut que d'habitude. Là, sur le bottom, bon, on ne sait pas si on a vraiment fait le bottom ou pas. En tout cas, on n'est pas allé aussi bas que d'habitude. Et d'autres indicateurs comme ça, il y en a pas mal. Même chose ici avec d'autres indicateurs. Bon, bref, on ne va pas tous les faire. On voit très bien sur le prix réalisé, par exemple, qu'on ne passe pas dessous sur ce bear market, alors que ça a été le cas sur tous les autres. Voilà, il ne faut pas attendre après un seul indicateur. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision globale plutôt. Et donc, tout ça, ça permet de mettre évidemment en avant les limites de l'analyse on-chain. Et une des raisons à ça, c'est que la part du volume d'échange qui s'effectue sur la blockchain est de plus en plus basse. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau et c'est entre guillemets normal avec l'adoption, puisque par exemple, il y a de plus en plus de gens sur des plateformes centralisées qui passent sous les radars de toutes les analyses on-chain. Mais ça a pris un tournant encore plus fort depuis 2024 et les ETF, puisqu'il y a encore une part beaucoup plus grande des échanges qui sont faits en dehors de la blockchain et donc qu'on ne peut pas analyser. On a reconstitué ce graphique. Alors attention, ce n'est pas un graphique officiel. On a agrégé plusieurs sources qui ont des méthodologies différentes. Donc il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Par contre, on voit très bien que ça dégage une tendance globale qui est que la part du volume du Bitcoin on-chain est de plus en plus faible. On était à peu près à 40% en 2017. Là, on est sous les 10% depuis 2 ans. Donc forcément, ça a un impact sur l'analyse on-chain puisque l'échantillon analysé est de plus en plus faible par rapport à la part totale. Et du coup, on peut se poser la question de la pertinence. On sait très bien qu'un sondage, s'il n'y a pas assez de personnes qui répondent, il est peu pertinent. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Sous les 10%, est-ce que c'est vraiment pertinent? Surtout que les institutionnels vont principalement passer par les ETF parce que ça leur simplifie beaucoup les choses. Donc ça fait des transactions qui potentiellement peuvent être très importantes à analyser qu'on ne verra pas. Et évidemment, on n'est pas les premiers ni les seuls à avoir remarqué ça. Là, par exemple, on a un article de Glassnode qui fait plusieurs constats, qui est qu'il y a une baisse de certains indicateurs d'activité observable on-chain, alors que l'activité économique de Bitcoin, elle, ne diminue pas. Et forcément, tout ça, c'est lié au déplacement des transactions vers les brokers, les ETF et les infrastructures institutionnelles. Donc par contre, ça nous permet de dire que c'est pas parce qu'il y a moins d'activité visible on-chain qu'il y a moins d'activité tout court sur Bitcoin. Certes, il y a peut-être moins d'activité sur la blockchain Bitcoin, ça veut pas dire qu'il y a moins de Bitcoin échangé. Donc ici, on a un autre article de 21 Shares qui fait à peu près le même constat, qui dit que l'on-chain seul suffit plus pour comprendre tout le marché suite au développement des ETF. Et donc, il propose plusieurs pistes de solutions et d'autres points à analyser, puisqu'en effet, les ETF nous donnent de nouvelles métriques à analyser, comme les inflow, outflow sur les ETF, des données futures, des données macro, etc. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller plus loin d'ailleurs. Ici, on a une autre étude qui est parue en avril 2026 et qui a étudié une cinquantaine de métriques on-chain, qui vient conclure ici, là, on le voit, que à peu près 90% d'entre eux n'ont plus vraiment de pertinence pour une éventuelle relation prédictive. Bon, j'aime pas trop ce mot, parce que déjà, ça part du principe que les analyses on-chain permettraient de prédire quoi que ce soit. C'est pas le cas, que ce soit les analyses techniques ou les analyses on-chain, ou peu importe, on peut pas prédire, c'est impossible de prédire, il y a que les charlatans qui font croire ça. Donc bon, même si c'est mal tourné et que le chiffre semble un peu spectaculaire, ça vient corroborer ce qu'on disait juste avant, qui est que les indicateurs on-chain sont peut-être un peu moins pertinents que ce qu'ils étaient avant. Même après avoir vu tout ça, c'est pas pour autant qu'il faut être dans l'extrême inverse et se dire que l'on-chain est totalement devenu inutile. C'est certes peut-être un peu moins pertinent, mais il reste toujours des métriques qui peuvent être intéressantes à analyser. Si on voit des bitcoins bouger alors que ça fait 12 12 ans qu'ils n'ont pas bougé, ça peut être un signal assez fort quand même. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'en effet, les analystes on-chain vont peut-être devoir adapter leurs analyses, prendre plus de métriques en considération et s'adapter tout simplement à l'évolution du marché. Donc en gros, si on résume, c'est que l'on-chain, ça reste une pièce du puzzle, c'est juste pas le puzzle entier. Mais ça l'a jamais été. Et d'ailleurs, par exemple, on a parlé tout à l'heure d'un article de Glassnode qui mettait justement en avant l'évolution du marché et la perte de pertinence des indicateurs on-chain. Ça les empêche pas pour autant de continuer à faire des analyses on-chain. Là, on en a une qui date du 3 juin 2026. Ils s'adaptent tout simplement au marché et c'est normal, on doit tous s'adapter. Le marché, il bouge en permanence, c'est vivant. Et donc maintenant, on en revient à la question du début. Où est le bottom? Et je pense que là, on va répéter des choses qu'on a déjà répétées plusieurs fois sur la chaîne, c'est que c'est impossible de sniper le bottom parfait. En général, tous ceux qui s'y essayent, soit ils ont un gros coup de chance, soit ils le ratent complètement et ils finissent par racheter plus haut. Alors évidemment, comme souvent sur Twitter, comme par hasard, tout le monde aura racheté le point bas. Il faut pas se fier à ça, faites très attention. Nous, ce qu'on préconise et ce qu'on préconisera toujours, ça restera un DCA sur le long terme. Alors un DCA, je pense que la plupart d'entre vous ont le terme. Pour ceux qui l'ont pas, ça veut juste dire des achats récurrents sans forcément regarder le prix. Alors oui, je sais, le sans forcément regarder le prix, ça peut faire un petit peu peur et c'est peut-être aussi un peu extrême. Par contre, c'est possible d'avoir un entre-deux, de faire un DCA optimisé par exemple. Et donc, une des stratégies possibles, par exemple, en se basant sur le BTB de Daprof, on peut très bien se dire on va faire des achats réguliers à partir du moment où il y a ces traits bleus qui apparaissent, ce qui, sur le long terme, permettra d'avoir une moyenne d'achat quand même très correcte. Alors forcément, on n'aura pas un prix d'achat exact à 59 000 comme on a pu avoir, mais peut-être que la moyenne d'achat, elle serait aux alentours de 65 000, ce qui reste quand même très très bien. Bon là, évidemment, je parle dans le cas où on a déjà effectué le bottom. Peut-être qu'on va faire un nouveau point bas, peu importe. Adaptez votre stratégie à vos envies, à vos préférences. Ça peut être avec le RSI, ça peut être avec n'importe quel autre indicateur. Et donc, pour essayer de démontrer tout ça un petit peu plus par les faits, on va lancer un DCA officiel de la chaîne FinTales. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est pas la première fois. CM, il en a déjà fait plusieurs. Comme ça, ça vous permettra de suivre la performance au long terme. On va commencer d'ici septembre. On va faire des achats réguliers toutes les semaines, tous les mois, on verra. On va faire ça sur Swissborg parce que c'est notre partenaire depuis très longtemps et que en plus, ils ont un petit outil qui permet de suivre le DCA de manière très simple. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire avec le code FinTales. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros en Bitcoin. Je vous mettrai le lien directement en description, mais nous, c'est vrai que c'est une plateforme qu'on utilise depuis très longtemps sur la chaîne et ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez l'habitude qu'on en fasse la promotion. Et pour rebondir sur les DCA qu'on va commencer, ça permettra aussi de démontrer que le DCA peut rester pertinent, même si on commence pas au meilleur moment. Là, par exemple, si on prend cet indicateur, évidemment, le DCA, il aurait fallu le commencer début février. Donc là, c'est pas possible, évidemment, puisque c'est trop tard. Par contre, là où ça reste intéressant, c'est qu'évidemment, c'est beaucoup moins risqué que de faire un all-in maintenant. Donc all-in, pour ceux qui connaissent pas, c'est on met tout notre argent au prix actuel. C'est une très mauvaise stratégie, puisqu'évidemment, si on achète là à 77 000 et que ça tombe derrière à 50 000, bah, on sera pas bien, forcément. Là où, avec un DCA, eh ben, on aura peut-être une moyenne d'achat qui tombera aux alentours des 63 000, par exemple. Et dans le même temps, admettons qu'on ait fait le point bas et que le marché reparte d'un coup, on sera quand même pas sur la touche et ça nous laissera toute une période d'accumulation. Le marché va pas partir d'un coup, ça va forcément créer des retracements à certains moments. Certes, le marché nous attend pas, mais il va pas bouger, il est là, il faut pas non plus trop se précipiter. Donc on se quitte ici, j'espère que cette vidéo et cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, n'oubliez pas de liker évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que d'ici la rentrée, on va lancer de nouveaux formats sur la chaîne YouTube, on va aussi relancer un petit peu Instagram, on va lancer un TikTok, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre partout. On a prévu de nouvelles choses, de nouveaux contenus, on espère que ça va vous plaire. En attendant, vous continuerez à avoir les analyses régulières de CM, et moi, je vous dis peut-être à une prochaine fois. À bientôt !